Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, le barbecue dans lequel nous allons rentrer dans les détails de Love and Monster, un film sur la plateforme Netflix, n'est-ce pas Romain? Pour ceux qui ont écouté le hors-d'œuvre de lundi, soyons précis dans les termes évoqués dans Critique Biaisée. Sinon, nous avons le producteur en chef qui vous tacle. Et donc, du coup, nous allons rentrer dans les détails de Love and Monster. Pourquoi ce film n'a eu que 6,125 de mémoire, hein, ce qui est une bonne... 625, pardon. Ce qui est une très bonne note pour la critique biaisée.
C'est
mais,
pas mal.
Et voilà. Donc, autour de la table pour ce faire, nous avons Pierre. Salut, Pierre.
Et salut, salut.
Benjamin, hello.
Bonjour Thomas.
Pourquoi l'accent est toujours...
Pourquoi
ça marche toujours?
Pourquoi
Romain,
je ne comprends
salut
pas.
Romain.
Et salut, salut tout le monde.
Et du coup, nous allons rentrer dans les détails de ce film. Benjamin va nous expliquer l'histoire de Love and Monster juste après pour donner un petit peu plus.
Comment ça, Benjamin?
Est-ce qu'on avait convenu, non?
Oui, tu faisais
le
beau.
C'est un prénom
là.
En P plutôt.
Non, parce qu'il faisait
Benjamin
en mode
Benjamin. Oui.
Donc Pierre nous expliquera rapidement.
C'est ce qu'on dit, hein, de pain de Jamin.
Le pain de Jamin.
Oh, non, c'est vraiment une blague pourrie. Hein, je sais
les
pas
gars,
pourquoi tu fais ça. Ça me dégoûte.
Alors, les amis, nous allons parler du coup de l'histoire. Nous allons rentrer dans un débat pour essayer d'évoquer un petit peu ce qui nous a plu et moins plu. Nous allons avoir le classique jeu des critiques avec Romain as a speaker, une petite reco de fin d'épisode classique et la fin hein, de ce moment passé avec nous. Juste avant de rentrer dans les détails et que Pierre nous explique un petit peu ce qu'est Love and Monster, vous c'était c'est très rapidement question blitz, hein, votre monstre préféré?
Oh, bah je dirais Bill Pat, moi.
Bill Pat,
j'aime bien son design.
Ah, dans le film,
je crois que c'est dans le film.
Dans le film, ouais. Ou même si vous voulez en inventer, hein. Vous pouvez en prendre d'autres, d'autres lores, si vous le souhaitez. Inventez votre propre monstre.
Non, moi, pour rester dans le film.
Ton monstre. Ah, Pierre, vas-y. Vas-y, Pierre.
Non, mais s'il y a un ordre, s'il y a un ordre,
c'est fou.
C'est
fou. Non, vas-y, je sais pas quoi dire, toi.
Non, bon, mais si, c'est pas quoi dire, alors. Non, moi, j'ai beaucoup aimé l'escargot, hein. Je trouvais rigolo, je trouvais ça sympa et ça cassait un peu le ton du film où tout ce que t'avais rencontré était hostile. Je trouvais ça marrant et puis il était mignon. Non, c'était mon préféré.
Ok, Romain.
C'est beau. Ben, est-ce que le vrai monstre de ce film, ça ne serait pas le capitaine?
Oh, magnifique! Magnifique!
Oh my god, c'est trop beau.
Retour de... Alors, tu m'ôtes les mots de la bouche. Moi, j'avais le chien en tête, mais c'est pas vraiment un monstre, mais c'est bon, bah, c'est mon préféré, il est très très...
C'est juste un chien.
D'ailleurs, pourquoi le chien, lui, n'a pas subi des dégâts atomiques, quoi?
Il avait une armure en scénarium quand les radiations sont retombées.
Est-ce que c'est un bon chien?
C'est vrai que le chien, c'est pas pourquoi.
Ah, les bons chiens ne transforment pas.
Non, mais oui, tout à fait.
Ton maître ne te transforme pas.
Pour ceux qui n'ont pas écouté ni vu Love and Monster, Pierre va nous faire un petit rappel de ce qu'est l'histoire. Hein. C'est ça, Pierre, hein, de ce film.
Ouais, une petite critique biaisée entre le résumé.
Allez, vas-y. Nous t'écoutons.
Et du temps à perdre à écrire. Ok. Alors, Love and Monster prend une approche intéressante et nous montre un monde post-apocalyptique très vivant. Rempli de créatures effrayantes et sordides, des mille pattes géants, des crapauds mutants de 3 mètres de haut, mais pas que. On nous montre aussi un monde parfois magnifique, des créatures pas toujours en quête du sang de nos protagonistes. D'un nuage de méduses volantes, en passant par un escargot géant traînant sa maison derrière lui, avec un regard bienveillant digne d'une créature de Miyazaki. On en regretterait presque de ne pas pouvoir apprécier cet aspect du film plus longtemps. Et c'est dans ce monde dangereux que notre héros part à l'aventure afin de retrouver son âme sœur. Il rencontre sur sa route des personnages intéressants, passant par un duo de survivants vétérans qui lui apprendront à survivre, ou un fidèle canin qui le suivra tout au long de son voyage. Jusqu'à un robot, sur ses dernières heures de batterie, avec lesquels il partagera un moment magnifique. Mais c'est après cette aventure passionnante que Love and Monster nous emmène vers un final assez décevant, nous sortant d'un voyage dont on aurait aimé en voir plus, pour nous donner sa conclusion assortie d'une tentative de morale dubieuse. Love and Monster, au final, est peut-être un très bon exemple de l'adage disant que le voyage est peut-être plus important que la destination.
Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est un voyage.
Juste à doigt de chialer en fait.
Oui, c'est vrai qu'à la fin, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, mais en fait, ils sont morts.
Je comprends.
C'est le chien.
C'est l'effet que j'ai eu avec le film.
T'as pleuré?
Ah, bien sûr. Okay. À chaque seconde de la fin, j'ai pleuré de douleur parce que j'avais plus envie de m'infliger ça. Mais...
Attends, mais Benjamin, voulait rajouter une heure tout à l'heure, donc vous avez pas été.
Oui, j'avoue, il faut savoir.
Mais si c'est une heure du milieu de film, j'accroche. Si c'est une heure de la fin,
oui, voilà, c'est ça. C'est pas une heure de fin, quoi.
Bah, très bien, commençons par ça, du coup, les amis. Pourquoi,
suicide.
Pourquoi, Benjamin, cette volonté de rajouter une heure? Du coup, qu'est-ce qui t'a.
Eh bien, écoute, mon cher Benjamin, Thomas, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Le fait est que... En fait, pourquoi tout simplement. Nous avons juste un passage, en fait, quand il va être dehors, qui est coupé, en fait, entre différentes scènes avec le chien et le... Parce que soit des scènes avec son chien où il est un petit peu en mode perdu tout seul, il cherche un peu, t'as le chien qui arrive assez vite, en fait, quand il sort dehors. Et t'as le passage avec les deux personnes qui vont l'aider. Il y a Minao, la petite, et j'ai oublié le nom de l'adulte.
Josh.
Qui est...
Je sais pas.
Joël.
Joël, c'est le... Non, c'est le... l'aventurier.
Ah, tu me parlais pas du héros? Moi, je vous demande un prénom, je dis au pif.
Non, mais je comprends.
Ah bah, c'est tout à ton honneur.
C'est le producteur.
C'est Sean Levy, le producteur. J'ai check depuis lundi.
Appelons-le Sean Levy, cet aventurier. Très bien.
Il parle de Clyde, qui est joué par Ruka.
Voilà.
Wikipédia.
Tout à fait. Fermez-la maintenant. Et en gros, je trouve que c'est le moment où il est avec les deux protagonistes. Il est vraiment super cool ce moment. Il est drôle et il est même un peu touchant par moment. C'est là où on voit en fait la nature sauvage du monde et tout qui s'est développée avec la retombée des radiations. Et c'est là qu'on ressent plus le danger en fait. C'est à partir du moment où il rend compte qu'on ressent vraiment la présence des monstres, le danger qu'ils posent et les comportements qu'ils ont. Et je trouve que si jamais tu rajoutes 45-60 minutes à ce moment-là du film, tu prends le temps en fait de développer les caractères, donc le héros, comment il va évoluer en tant que héros très peureux, qui va en fait s'affirmer, tu vois, dans la survie et finalement qui prend confiance en lui. Tu développes les deux personnes qu'il rencontre qui sont assez intéressantes, je trouve, déjà de base. Et tu peux montrer plus de monstres, tu peux montrer plus de moments de danger pour le héros, tu t'attacherais plus à lui. Et je pense que vraiment, c'est là où le film aurait dû le plus s'étendre. Parce que c'est là, en fait, où il est vraiment le plus intéressant. C'est quand il nous montre des monstres et quand il nous montre
des monstres. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser, notamment la manière dont tu viens de l'expliquer, au moment que j'appellerais le moment Timon et Pumba. Tu sais, dans Le Roi Lion, tout d'un coup, il est tout petit, il est peureux, machin, il rentre dans la jungle, il rencontre Timon et Pumba, et puis, tout d'un coup, il apprend des choses et il se transforme, il vieillit, grosso modo, et t'as la musique sans aucun souci. Et là, tu le vois, et puis il ressort, il est, c'est bon, j'ai plus peur de rien, je suis le héros, je vais aller défier Scar.
Donc tu viens de détruire mon résumé en disant c'est Timon et Pumba.
Après c'est une bonne comparaison. Le Roi Lion, c'est un bon film.
Non mais c'est vrai que je pense que c'est Timon et Pumba.
Mais après je comprends Fumby dans le sens où je comprends quand ils veulent rajouter du temps, mais oui, parce que le film est clairement découpé en trois parties. En fait, on dirait presque une mini-série en soi dans le découpage, je trouve. Il est vraiment découpé comme trois épisodes d'une mini-série, clairement. Et donc du coup, oui, pourquoi pas rajouter un ou deux épisodes au milieu, quoi. Mais
c'est quoi du coup pour toi? C'est intro, développement du personnage.
Ouais, on a l'intro.
Dans le truc,
c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui.
C'est l'archétype un
peu. C'est assez commun, ouais, c'est sûr.
Ouais, mais ouais, je suis d'accord sur le côté mini-série. Le côté mini-série, et après, vas-y Pierre.
C'est marrant que tu fasses la comparaison avec Timon et Pumba, parce que moi ce que j'ai surtout eu comme feeling, c'était Kick-Ass. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avec le duo de la gamine et du père super-héros là, moi j'ai eu vachement ce feeling entre leur rencontre avec ce personnage un peu qui a envie de faire quelque chose mais qu'on n'est pas du tout capable, et cette espèce de duo de badass qui le montre comment faire pendant un moment. Et là c'est vraiment la dynamique que j'ai ressentie qui m'a fait penser à ça, et ça marchait très très bien. Et même si j'ai pas aimé la fin, je suis très d'accord avec Benjamin, et j'aurais beaucoup aimé en voir plus de ça, parce que moi c'est vraiment le moment qui m'a fait accrocher, quoi. Tout ce petit trio d'infortune était vraiment stylé, et t'aurais aimé en voir plus.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je pensais qu'ils allaient revenir à la fin. Genre, qu'à un moment donné, ils allaient les amener bah dans la montagne et qu'on allait en voir et qu'il y aurait une conclusion avec ces persos. Après, j'imagine que je vais aller de suite sur la fin du film, mais qu'il y aura un 2, quoi. Il y aura forcément un 2 où ils vont arriver, du coup, ils vont revenir.
Je pense
qu'ils plantaient le décor. Mais d'où? Faut qu'on leur dise d'arrêter de faire des films pour faire des films, quoi. La série, là, ça permettait vraiment d'exploiter les personnages, de donner des backstories à ces gens-là. Tu vois, avec des remontées dans le temps, on aurait pu savoir d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. Moi, je crois qu'après, un biais, je pense, maintenant, mais j'ai envie de détails, et surtout quand ces personnages-là sont assez charismatiques. Je sais plus qui c'est l'acteur, il est trop cool. J'aurais aimé en voir plus de ce gars-là.
Dylan O'Brien.
Ouais, mais il a joué dans quoi, d'ailleurs? Parce que je sais plus.
Labyrinthe.
Ah, bah oui, ok. Eh oui.
Tu parlais pour lequel acteur?
La principale, il y en a qu'un.
Ok. Mais non, je pensais qu'il parlait peut-être. Parlait du mec du duo, par exemple.
Mais au final, des trois.
Parce que lui, il est particulièrement charismatique, quoi.
Ouais, mais j'aurais aimé en voir plus, quoi, de tous les personnages secondaires, même à la limite le capitaine, quoi, le monstre, comme disait Romain. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu manqué, quoi. Ça m'a un peu manqué.
Après, moi, le côté film me dérange pas. C'est vrai que moi, c'est un one shot et je trouve ça bien aussi. J'en ai marre de voir des séries tout le temps. J'ai pas un milliard de séries par semaine. Je peux pas tout regarder. Et mine de rien, ça te prend déjà 8 des épisodes, ça prend 8-10 heures. Enfin, c'est long. Enfin, un film de temps en temps, j'aime bien. Ça me, voilà, c'est dure 1h30, 2h, 4h quand c'est trop bien. Mais sinon, voilà.
Je me demande bien dans quelles circonstances les 4 heures.
Mais je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas.
Bah, c'est le problème, ouais. T'as l'impression que ça se bâcle un peu, quoi.
Un truc qu'on a tous aimé, je pense, c'est le côté univers et le lore, en fait, créé autour de ça. Moi, c'est ça que j'aurais aimé vraiment voir plus. C'est pour ça que je le vois bien étendu, en fait. Parce qu'il y avait des choses à dire. Un as sous la pédale, tu te rends compte qu'ils ont développé un univers. D'ailleurs, le petit gars qui a toujours son carnet de dessins et qui va les dessiner et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de créer un vrai univers, de l'étendre et tout. Enfin, il y a de la créativité dans ce film. Mm-hmm. Et ça, j'ai vachement aimé. C'est ça que j'aurais voulu voir plus, tu vois, au final. Plus que les relations entre les personnages, quoi.
Surtout que tu parles d'univers, et pour une fois, ce qu'il a souligné quand même, c'est que cet univers n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas tiré d'un bouquin, c'est pas tiré d'un film, d'un jeu, de rien. Et c'est très rare. Il y a pas beaucoup de films ou de séries qui sortent maintenant sans que ça ait été écrit il y a 15 ans, quoi. Donc c'est quand même plutôt à souligner, puisque c'est bien fait, c'est quand même plutôt propre. Donc je trouve que c'est pour une fois une très bonne chose, quoi.
Ouais, c'est très juste.
Au moins, on invente un peu
le droit. C'est assez un l'encontre.
En plus, ça, c'est pas ouf comme. Enfin, il y a pas de truc incroyable en fait qui est mis en place dans cet univers. Il y a rien de révolutionnaire en termes d'image ou en termes d'idées, mais tout ce qui est fait, il est fait vraiment proprement. Et je pense notamment à la, ne serait-ce que tu sais, la scène avec les méduses.
Oui,
qui
c'est vrai. Oui, c'est très sympa.
La scène, elle est belle. La scène, elle passe super bien. En plus, il est avec le robot, il y a ce côté... Ça, je trouve, ça rajoute un peu à l'onérisme, en fait. Le côté intelligence artificielle qui n'est pas vraiment humain non
moment,
plus.
D'ailleurs.
Du coup,
oui, c'est un très bon moment.
Ouais, il est joli. C'est un moment qui est joli, en fait, et qui est agréable. Et tu vois, c'est vraiment propre.
C'était une bonne pause. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé.
Et qui n'est pas du tout cringe comparé à d'autres moments du film.
Oui, mais ça va plus être horrible, mais c'est pas mal.
En fait, ce film s'appellerait, j'y reviens, à Monsters. Ça aurait été un super film. En fait, l'histoire d'amour, mais comme souvent, est un petit peu bâclée au final, part d'un concept très cringe où 7 ans après, le mec se dit, c'est bon, je vais avoir la meuf qui m'a roulé des pelles dans ma bagnole.
Faut qu'on en parle.
C'est tout à fait normal, je lui demande pas son avis. À la fin, je réalise que je suis un connard.
Le mec se barre l'air de rien.
Mais... Non mais les gars, c'est vraiment...
Ah, j'avoue, c'est improbable.
Donc ça, c'était super cringe.
Elle m'a sûrement attendu.
Ouais, c'est ça, de toute façon, elle m'attend depuis 7 ans. C'est une... enfin, c'est... Donc ça m'a un peu gêné déjà le truc. Après, tu te rends compte juste qu'il a pas de vie et tout, machin, et donc du coup, ça le fait partir. Mais voilà, ce côté, voilà, et puis il la revoit, il l'embrasse. Alors il embrasse Pete, en vrai, quand il tombe dans les pommes après le poison, machin. Bon, et puis après, toute leur histoire avec le cap, le machin, ouais, toute cette fin, en fait, enfin, la troisième partie, du coup, le moment où il arrive finalement, il a une quête, il y arrive, et puis ça doit se conclure. Cette partie-là est ratée pour moi et du coup c'est
tout à fait.
Là je me suis dit vivons que ça se termine, quoi.
De toute façon, en gros, la quête est ratée. En vrai, on sait depuis le départ que la quête c'est naze, quoi. Enfin, il part vraiment comme tu dis, le mec, il traverse 140 km quand même à pied, donc c'est quand même insane. Alors que normalement tu meurs en une journée, enfin c'est improbable, je veux dire. Je pense que dans la vraie vie, personne fait ça sur une meuf que t'as vue il y a 7 ans ou un mec. Enfin, tu vois, je veux dire, ça paraît improbable.
Ouais,
sans lui dire j'arrive, quoi, déjà de base, quoi. Au moins je viens. T'en penses quoi? Je veux dire, attends.
Après,
il y a moyen que je sois mort dans 15 heures, donc.
Après, si tu dis pas de bêtises, il avait perdu le contact à la radio avant de partir. Et c'était pour ça qu'il s'était motivé. Parce que il me semble qu'il avait avait eu. Et c'est peut-être pour ça. Dans tous les cas, le truc est débile. Mais après, ce qui est dommage, et pour moi, c'était là encore, était plus intéressant, c'est que clairement, au final, c'était plus une excuse pour sortir que le vrai but en soi, je pense. Et je pense qu'ils auraient dû tourner sur cet angle-là et faire une fin plus courte et reconcentrer avec finalement la réalisation que bah, il s'en sort pas si mal et que pourquoi il n'irait pas rejoindre plutôt les amis qui s'est fait en chemin plutôt que d'essayer d'arriver à cet objectif final stupide qui s'est fixé comme un adolescent. Voilà quoi, enfin, je pense que ça aurait été une meilleure conclusion plutôt que de passer 20 minutes avec le capitaine australien imbuvable et un crabe géant qui essaie de dévorer la plage. Enfin, c'était vraiment, c'est passé de film sympa à nanar puissance 20 000. Moi, ça m'a sorti du truc quoi.
En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, je pense, c'est, tu vois, ils disent à un moment donné dans le film, tous les monstres ne sont pas
bien sûr,
c'est un vieux qu'on voit et tout. Et là, en fait, ils te montrent un peu l'être humain, tu sais, qui présente le mieux, qui a l'air trop gentil et tout, et qui en fait est un enculé. Tu sais, c'est pour dire un peu les apparences.
Oui, non, mais ça, tu vois à 20 km.
La première impression et tout. Bah oui, c'est trop obvious quoi.
Et puis, franchement, cette conclusion avec finalement, j'ai vu dans les yeux du crabe, il est gentil. Non, mais arrêtez quoi, sérieux.
T'as déjà regardé les yeux d'un crabe? T'as déjà vu la bonté
moi, depuis, je ne mange jamais les bâtons de crabe, j'ai arrêté.
Les bâtons de crabe,
je vois ses yeux.
Tu vois leurs yeux.
Ça, elle conscient, du coup.
Il y a aussi, dans le film, il y a aussi la morale sur, mine de rien, c'est surtout la morale sur la chaîne alimentaire, quoi. Sur où on en est, bien entendu. Mmh. Donc,
la place de l'homme.
Donc, je pense qu'il y a une remise en question là-dessus. Qui est un peu maladroite par moment, mais...
Mais ça, c'est cool.
Bah ouais, ils veulent pas en faire le forfait, au final. C'est-à-dire qu'à la fin, ils essaient de te dire que la morale, c'est que si moi, qui suis un connard, j'ai réussi à survivre dehors, tout le monde peut le faire, même vous, les papis de 80 ans qui vont sortir, faire 10 mètres et se faire bouffer par une plante carnivore. Enfin, genre, moi, j'ai vu ce moment-là, j'étais en mode d'accord, donc ça sert à rien, quoi. Enfin, cette morale, elle n'a aucun intérêt.
T'as un concept derrière à la fois à la Walter Mitty ou à la ou même alors complètement à l'opposé à l'Independence Day où tu peux complètement sortir de ta domination et se dire que ça appartient à tout le monde de le faire. Ça, je trouve ça cool. Moi j'ai bien aimé. J'étais assez sensible à ce truc-là, à ce message qui passe.
Ça m'a dérangé aussi.
Ça m'a fait penser vraiment à Walter Mitty. Dans l'histoire,
c'est vraiment un feel-good movie. C'est un feel-good movie post-apo. Littéralement, c'est vraiment ça, quoi.
C'est
clairement ça. Donc après moi pour le coup je trouvais ça bien fait, enfin pas trop mal fait, enfin pas horrible quoi. On l'a pas trop vu sur du post-apo et je me suis dit pourquoi pas en fait.
Ouais, la proposition était bonne et surtout ce côté-là, bah écoutez, là on est tous en train de crever, mais comme tu dis, on est en bas de la food chain et du coup on se dit voilà, on se terre, mais en fait on peut faire beaucoup plus, on peut essayer d'apprendre, on peut essayer d'évoluer et c'est ce côté que l'être humain peut toujours s'adapter et du coup finalement redevenir un peu libre et sur ce côté-là, t'as raison, ça m'a fait du bien sur un film où l'humanité est éteinte et tu te dis ouais, c'est cool, ok, je souscris quoi.
Ouais.
Ah, Pierre, toi, dans ça file bad.
Non, moi, ça m'a fait aucun effet comme ça. Enfin, toutes les morales qu'ils auraient pu exploiter, je trouve que c'était loin d'être ça. Enfin, ça m'a pas du tout touché. Je trouvais ça pas super intéressant. Surtout le côté survie à tout prix. C'est-à-dire que. Enfin, après, je trouve que c'est aller trop loin pour un film comme ça, mais pas tellement envie de rentrer dans les débats philosophiques qui tournent autour de la survie de l'humanité sur un truc d'un mec qui va chercher son amour imaginaire au bout de 200 km.
Ça m'a pas parlé. En vrai. Pourquoi
je sais pas. Parce que moi, je trouve que des fois, on essaie d'avoir comme si c'était obligatoire un espèce de message dans un film, alors que des fois, ça peut être suffisant en soi. Enfin, pour moi, t'avais pas besoin d'un truc comme ça. Il aurait fini en réalisant juste son erreur et en partant vers une nouvelle aventure. Pour moi, c'était déjà suffisant. Tu vois, t'as pas besoin d'essayer d'être moralement au-dessus. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas, en fait. Après, c'est peut-être moi, je ne dis pas que c'est pas une possibilité, mais ça me parlait pas du tout, quoi. Pour moi, c'est un peu, je trouvais presque une facilité, l'envie de faire un truc comme les autres, quoi. Enfin, je sais pas, c'était pas. Ça m'a pas plu, quoi.
Mais par contre, il y a un truc dont on parle pas du tout depuis tout à l'heure et que c'est très très grave qu'on fait.
Vas-y.
Ah ?
On n'a pas parlé une seule fois du chien.
Oui.
Exact. Ouais.
Parce qu'il faut quand même en parler du Best Boy Ever. Le Good Boy.
Qui a influencé ma note d'ailleurs fortement parce qu'il serait mort, ça aurait été un 0 sur 10 instantané, je vous le dis de suite.
Donc, aventure, il y a le chien,
ouais. Ouais, j'ai eu encore plus de mépris pour le personnage principal dans la scène la plus cringe du film, au moment où il gueule dessus en mode « Mais tu vas me faire tuer !» blablabla. C'était la scène la plus clichée de ce genre de film et c'était imbuvable, quoi.
Que le chien s'en aille ou qu'il lui crie dessus ?
Ouais, c'est pas utile.
Oh, qu'il lui gueule dessus en mode, je sais pas, enfin, il y a des films qui ont fait des scènes comme ça, j'arriverai pas à le sortir du bout de la tête, mais c'était la scène la plus gênante du truc, quoi, genre.
Mais les Sébastien ?
Non, les Sébastien.
Ah oui, bah oui.
Oui.
Merci. Ah, je cherchais.
Non, Pierre, tu regardais Balto, Chien des Neiges. Tu regardais ça quand t'étais petit.
Mais oui, sûrement. Non, mais c'est Balto, ça. Mais tu sais, ça a shapé mon enfance. Ça doit être marqué.
Mais je repense
et
souvent
si on
à Balto.
Pour le Benjamin, pour le chien, il y a peut-être un côté. Ça surfe sur le Je suis une légende, je pense. Il y a ce côté.
Clairement.
Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Vraiment. C'est-à-dire
ah ouais,
que c'est
ouais,
non-stop. Mais moi, j'ai beaucoup pensé à ce film parce qu'il y a vraiment beaucoup de clins d'œil, en tout cas.
Moi au début j'étais très en mode ce film pour moi c'était un mélange entre Zombieland et
Je suis une légende.
Et le Roi Lion maintenant grâce
j'ai
à
senti
mon
avis que des vagues
et
comme ça. Et maintenant il y a Hakuna Matata
et Balto
son dalmatien Balto Bialto bien sûr et un peu de Bouli le bonhomme des neiges aussi mais ça on en parlera plus tard.
Bouli t'as pas connu Bouli
Bouli
ça me dit rien tu peux vas-y Benjamin
on est chapeau rouge et nanana
ok
on va se faire strike merci Benjamin
ok je crois qu'on en est
pour nous allez adieu. Voilà, s'ils arrivent à reconnaître la moindre note en concordance,
on est
tranquille.
Très, très fort.
Ok, donc le chien.
Non, ouais. Mais le chien, en vrai, le chien est trop cool, ouais. En vrai. On sent, c'est vrai que c'est un peu senti qu'il est dressé.
Oui,
tu vois,
ouais,
donc ça
forcément.
Sort un peu du naturel, forcément, parce qu'il fait quand même
des trucs
assez
de fou. Bah oui,
que, ouais, voilà. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que justement, par rapport au chien, c'est quand même un des personnages principaux du groupe, finalement. Et il a une quête, en plus.
Oui,
sur laquelle on ne revient pas.
Exact.
Bah,
c'est dommage. Ouais. J'aurais beaucoup aimé, je trouve que ça aurait été très feel good de voir le chien justement réussir son.
Ça aurait peut-être été un peu abusé.
Sa maîtresse,
ça aurait peut-être fait vraiment too much quand même. Enfin, je veux dire, je pense que sa maîtresse est sûrement morte
non,
depuis
genre,
longtemps.
Bah oui, elle est morte depuis longtemps. Pour moi,
imagine,
c'était
ça se trouve, sa maîtresse, elle aurait été au camp.
Non, mais
ça,
elle aurait pas abonné son chien, ça aurait été encore pire.
Après,
ça aurait été en mode, mais quel être humain insupportable.
Et peut-être que le chien sait qu'elle est morte en plus. Et on sait. Il y a moyen qu'il l'était
ouais,
là.
C'est son dernier
ouais,
souvenir.
Voilà,
c'est
je pense que c'est plutôt le souvenir,
ouais.
La robe qu'il
ah ouais.
garde, plutôt que le. C'est pas vraiment une quête. Je pense qu'il la cherche
pour
pas.
Pour moi,
d'ailleurs,
c'est clairement
avec,
ça. Hein.
Ouais. Avec Joël, donc.
Il fait remplacement.
Ouais,
en fait.
Moi, je sais qu'il partait avec elle pour la chercher.
Je pense pas, non.
Mais je sais pas.
J'ai trouvé un nouveau maître, mais.
Moi, c'est plus sa backstory que j'aurais aimé avoir. Genre, mais pareil, j'y reviens. Ouais. Hein, j'aime bien développer les arcs. Et effectivement, les personnages, ils les rendent sympathiques.
Backstory.
Mais attends, mais oui, tu sais, une backstory.
Après qu'elle sur le
chien. Tu sais, en sous-titré français, mais en ouf, en langue originale de chien.
1h30 de préquel.
Mais voilà, non mais
ça, bien,
ça serait génial, ça serait génial. Non mais voilà, ouais, mais le chien, oui, effectivement, sacré personnage. Mais
imagine juste Thomas, la backstory du chien, mais sauf que c'est pas des oufs, c'est Samuel L. Jackson qui te fait le résumé, et c'est le chien.
Allez,
mec, qu'est-ce que c'est génial.
Je produis.
Mec, après, tu regardes le chien, tu le respectes, tu vois.
Je veux,
ah,
je
bien,
veux un préquel de ce film version chien. Le Samuel
sinon,
L.
ça sera peut-être Shabba qui le fera version Didier, en fait.
Ah oui,
ça pourrait être ça. Mais imagine le film. C'est pas le chien qui est dans la carotte, c'est vraiment Didier, quoi. C'est Shabba à poil.
Putain, c'est un crossover.
Mais
ah,
c'est
trop malin, j'avais pas
c'est
pensé.
C'est la suite de Didier non espéré, quoi.
Attention à ce que vous souhaitez, parce que les Français rachètent des séries et en font. Hein, on l'a vu pour Your Honor, on l'a vu pour This Is Us. Attention.
En vrai, ça, je regarde
ça. Ah oui, mais non, mais pareil,
là.
Aucun souci.
Je
aucun
Shabba
souci.
À poil.
Du coup, les acteurs secondaires, enfin tous les personnages secondaires finalement sont assez cool. Le chien en faisant partie. Je trouve qu'en fait c'est la réussite de ce film aussi, sauf l'être aimé entre guillemets qui est aussi tiré à quatre épingles, mais comme le héros principal au final, les deux leur histoire c'est la
ça.
Moins intéressante.
Ouais, ils se valent.
Oui, ils se valent.
Ouais. Ils se valent.
Ouais,
les
ils
deux.
Valent. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils se valent les deux en termes d'intérêt. Tu vois, ils sont pas ouf. Mais en fait, tous les petits personnages principaux, enfin secondaires qu'on voit même en fond des fois, ils sont agréables à voir, tu vois. C'est genre les deux vieux là qui regardent un peu quand ils arrivent genre pour une petite scène, ils sont marrants. Le mec qui a été embrassé à la place de la copine du héros, il tire une gueule, tu vois. C'est ils sont bien dans le décor, tu vois.
Mais ça en revient à ce que dit Romain, je pense que c'est une belle manière de le qualifier, que c'est un feel-good movie post-apo, et pour le coup, c'est assez rare pour être souligné, quoi. Il y a quand même l'intégralité du monde qui est mort, et quand même, on se sent bien dans ce film, quoi. On a envie d'y aller, quoi.
Ouais.
Comme à Jurassic Park, un petit peu, mais avec des monstres transgéniques, quoi.
C'est ça, oui. Et Jurassic Park, il faisait pas trop bon vivre, quand même. Hein.
Bah, au début, si.
Pas très feel-good.
Au début, c'est feel-good.
Au début, ouais.
Avant qu'il s'échappe.
Jusqu'à ce que t'as aux toilettes sur le bord, là, et là, c'est terminé. T'as tiré, tu fais caca tranquille, t'es là, yes.
Mais oui, mais il est pas allé aux toilettes dans le film. Du film, il va pas
faire caca. Il le sait. Il avait dû voir Jurassic Park. Il est malin.
C'est ça.
Ça va être une des règles.
C'est ça. Ok les amis, bah, écoutez, je pense qu'on a fait, un petit tour sympathique de cette feel-good movie. Je pense que ça sort en finale en nous écoutant. Là, je me dis que c'était un bon film, quoi. Je pense qu'on a passé un bon moment.
Oh, ouais, ça va, ouais.
Oui, c'était un bon moment.
Moi, j'ai passé un bon moment, ouais.
Ça roule, mais passons.
Et du coup, on en profite toujours grâce au Covid, hein, parce que, enfin, grâce, merci hein, pour une fois, parce que sinon, ça sortait au cinéma.
Ah oui.
Donc en fait, encore une fois, hein, c'est un film Paramount, hein, donc ça, ouais. Ça devait sortir au ciné.
Et je ne l'aurais jamais vu.
Sorti.
Je pense que je serais jamais.
Bah, oui, pareil.
Ouais, je serais peut-être pas allé le voir, ouais. Quoique, on sait pas, c'est par hasard, tu vois, en disant, tiens, peut-être
ouais,
que.
Ouais, mais je crois que j'aime plus. J'ai jamais vraiment aimé le ciné, je crois que. C'est que Romain, toi, t'es assez fan. Enfin, mais du coup, je crois que. Post-Covid, je suis même pas sûr d'y retourner, mais bon, bref. Passons au jeu des critiques. Jeu où le numéro 1, numéro uno, inégalé, maître du jeu n'est pas là. Donc, du coup, ça remet en cause un petit peu tout.
Ça va chier.
Qui va gagner? Qui va prendre la place de Olivier, The Master of Critics? Romain, floor is yours.
Je prends mes notes parce que je les ai pas au bon endroit. Voilà, je les ai. Donc, le jeu de la critique. Je rappelle brièvement, je prends des critiques au hasard. Enfin, pas au hasard, je les choisis quand même sur Allociné en général, des films qui sont un peu en lien avec ce qu'on vient de parler. Je prends des trucs bien biaisés de personnes qu'on détestait souvent. Et souvent, ça vole pas très haut dans les critiques. Hein. Désolé, à part, je pense à Coco Lapin, hein, qui, si tu ne m'écoutes, j'ai pris ta critique aujourd'hui. Donc, on est
parti. Mais c'est
moi. Merci, Coco.
Plot twist, on écrit toutes les critiques, nous-mêmes.
On va commencer assez simple. C'est un film post-apo. Donc voilà, vous devriez trouver. La note est de 0,5. Pas trop apprécié. Oui. Je rappelle, hein, vous dites votre prénom et je dis à qui répondre. Donnez pas votre prénom et répondez pas dans la foulée, parce que si c'est pas vous, en général, vous êtes baisé après. Comme Pierre, par exemple. Allez, c'est parti. Alors, le Cirque du Soleil fait le Paris-Dakar. Esthétiquement réussi, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai plutôt trouvé ça chiant.
Thomas.
Benjamin,
oui. Mais hey, bien vu.
Oh, ah belle. Ouais, c'est vrai qu'elle était
c'est Paris, c'est Paris Dakar qui m'a dit.
Oui, Paris Dakar. Oui.
Ah, mais j'allais penser le truc avec le prêtre.
Oui, c'est ça. Oui.
Ah, oui.
Et j'ai cru que ça allait être le truc. Avec... Je me rappelais plus du film avec le prêtre aveugle et sa Bible en braille là.
Ah, c'est Ellie.
Ouais, j'ai cru que ça allait être ça, mais non.
C'était pas mal.
Ellie, c'était bien.
Mais on
apprend plus tard qu'il est aveugle, si je me rappelle bien.
Ouais, tu l'as. Mais quand ils ouvrent la Bible, je crois.
Ah, c'était bien ce film.
Fury Road, après l'avoir vu pour le coup, j'étais au ciné et j'ai eu l'impression de courir un marathon, quoi. C'était
excellent.
À la fin, tu sors, t'es...
Ah, t'étais. Mais c'est... Moi aussi, j'étais fatigué à la fin de Fury Road, je me rappelle, je l'ai vu au ciné. C'était intense, quoi.
Eh, vous voulez savoir quoi? J'avais même pas
vu. Non.
Film,
oh non, mais ça.
Oh non, comment tu peux ne pas l'avoir vu? Il y a le meilleur acteur de tous les temps de Dread.
Mais il y a le. Mais j'allais y venir. J'allais venir. C'est pour ça que Thomas l'a autant apprécié.
Ah, il y a son
non,
fils,
le deuxième,
Tom Hardy.
Le deuxième acteur
Tom Hardy.
De
Tom Hardy. Oui, qui joue Tom Hardy, quoi, comme d'habitude.
Bien sûr, il ne parle pas.
Qui joue Tom Hardy dans le rôle
non,
de Tom Hardy.
Alors, vous êtes mauvaise langue, à un autre moment, il grogne.
Non, mais ça, c'est Tom Hardy.
Voilà,
c'est la manière dont il s'exprime. Donc,
c'est
lui.
Allez, on est reparti. Du post-apo, toujours. C'est du post-apo. Oui, c'est du post-apo. Oui. Un peu science-fiction. Mais quel boost, ce film! Shyamalan a perdu de sa verve depuis Le Village et a certainement été manipulé par le scientologue producteur du film Will Smith, avec une philosophie très douteuse et le mini Smith qui devrait retourner
Benjamin,
à l'école. Oui.
Je suis un héros.
Pas du tout. Qui devrait retourner à l'école, ne serait-ce au théâtre pour prendre des cours de bon jeu. Post-apo, alors qu'il y a la famille Smith dedans.
Ah oui, putain.
Elle a pas 50
ans. Je l'ai vu.
Ah, je vois le film.
Je l'ai vu aussi.
Ah.
Je l'ai vu aussi. Par contre, c'est pas du tout scientologue, Will Smith. Hein.
Non, mais bon,
il a confondu avec Tom Cruise, quoi.
C'est Valentin qui a la critique. Écoute, c'est Valentin, si tu veux nous l'expliquer. Il sait sûrement des trucs qu'on ne sait pas. Donc,
Valentin, laisse-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et dis-nous.
Merci.
Explique-nous ton raisonnement.
Alors, il y a la Terre dans le nom. Mais en anglais.
Earth.
Benjamin.
Non, Earth. Bah non, c'est pas si simple. Mais avec ce mot, tu devrais trouver le film.
Mec,
tu veux pas leur tirer 3 points juste pour être sûr?
Non. C'est après la Terre.
Thomas, After Earth.
Oui.
Benjamin.
Bravo.
After Earth.
Oui.
C'est moi qui ai gagné.
Mais oui, non, mais
c'est moi qui ai gagné. J'ai jamais vu ce film.
C'est Benjamin qui était devant.
Ah oui, il y a vraiment un lag dans ce que je raconte. Putain, c'est incroyable.
Ouais. Et du coup, dommage. Benjamin avait moins 1 parce qu'il a répondu en pré-shot. Il a du coup
j'ai toujours 1.
Enfin, il avait 0, il est passé à 1 du coup.
Benjamin, et tu l'as vu celui-là, Benjamin, ou tu nous bullshit encore?
Absolument.
T'aimes bien le cinéma ou les séries? Enfin,
mec, c'est justement parce que j'aime bien le cinéma que j'ai pas vu After Earth.
Oui, c'est vrai. Pour l'avoir vu, c'était quand même pas fun.
En vrai, j'ai vu les bandes annonces, j'ai fait non merci.
Bon, on est parti. J'ai failli vous dire le nom du film en lisant les notes, quoi. J'étais là.
Bon, alors, <dis pas. rire>
dans la famille, film pour ados nouvelle génération, déjà bien représenté par Hunger Game ou Divergente, je demande le dernier né. On y retrouve la morale douteuse du collectif au service de l'individu et une banalisation de la violence des jeunes. On ne joue plus à tuer, et je fais un AVC, je pense, désolé les gars. On ne joue plus à tuer et à mourir, on tue et on meurt. C'est plus in. Mais là où les Hunger Games avaient le mérite d'être innovants, ici, point de nouveauté. Décor ultra pauvre, pas Thomas.
Le labyrinthe.
Oui.
Putain, j'ai hésité tellement à le dire, j'ai tellement hésité.
Oh là là, je suis nul.
J'avais trop peur du
moment avec Hunger Games et Divergent, je me suis dit, le troisième, c'est le trio, trio des losers, le dernier, quoi.
C'est ça.
Pas mal. Et on a un point Benjamin, un point Thomas et Pierre, comme d'hab.
Ouais. Non, mais moi, ce qui est affreux, c'est qu'à chaque fois que j'ai la réponse, je la donne pas. Quand je l'ai, je ne la donne pas.
Oui, c'est dommage. C'est vrai que c'est bête. Peut-être pour toi, celui-là, je ne sais pas, écoute. Le dernier, l'avant-dernier, 0,5. À mourir d'ennui. Beau décor, mais histoire spéciale et pas toujours compréhensible.
Thomas.
On s'ennuie. Oh, c'est. Ouais.
Je suis une légende.
Oui, c'est ça.
Oh, le salaud.
Le pré-shot.
T'as pré-shot. En plus, t'as pré-shot genre à deux mots où mais c'était oui, sûr que t'allais trouver,
parce
toi.
Parce qu'en fait, je savais que t'allais le faire et j'avais une chance sur deux.
Mais
je
si t'es obligé.
Je balancé une chance sur deux entre si et la je l'ai tenté. Voilà.
Bon, du coup, on a Thomas à 2 points, Benjamin à 1 point, Pierre, bon, bah, toujours, on sait même pas pourquoi il est là. Et du coup,
je vais m'en aller d'ailleurs, parce que moi, ça
du coup, coup on le fait en maître du monde entre Benjamin et Thomas, c'est normal. C'est les deux.
Est-ce que je peux donner une réponse pour les fuckés? Genre, je décide à quelqu'un si je donne le point.
Oui, si tu veux, si tu trouves.
On peut faire ça, on verra.
C'est toi qui décide. Quitte à pas perdre, autant foutre le bordel.
Allez, le dernier. Donc, c'est 1,5. Un film très moyen. L'histoire est absente. Un humour globalement moyen avec peu de scènes réellement drôles. Post-apo.
C'est tout. Putain.
C'est tout.
Pierre, Zombieland.
Ouais. Oui, c'est ça.
Mais j'ai hésité. Mais pourquoi je l'ai pas dit? Mais qu'est-ce que je suis con? Mec, dans ma tête, je suis en mode, c'est Zombieland. C'est Zombieland.
Non, mais attends,
c'est Zombieland. Et je dis rien.
Je suis marqué
des points
que quand il n'y a aucun enjeu pour moi,
j'avoue.
En fait. C'est ça,
j'espère
c'est la peur de la
Pierre va faire gagner
pas.
Olivier.
Attends, tu décides. Et sachant
je donne mon point. Je donne mon point à Olivier.
On ne peut pas.
Je donne mon point à Olivier.
On peut. Olivier a donc gagné. Bravo, Olivier.
Olivier, bravo!
Non, c'est une blague, par pitié.
Non, mais si, parce que Romain l'a dit, cette question valait 3 points. C'est pour ça.
Eh oui. J'allais dire, Olivier. Olivier gagnera toujours. Les gars. Il est trop fort, c'est ouf. Même quand pas là, il gagne. C'est vraiment.
Mais en fait, ma réflexion, c'est que soit
moi,
Olivier
moi,
gagne.
Moi, je vais me barrer. Hein, ça suffit.
Si t'as la bonne réponse.
C'est du vol. C'est
ah,
du
oui,
vol.
Mais bon, hein. Si je peux pas gagner, je préfère qu'Olivier gagne le titre, garde le titre. Tu
c'est
vois,
sûr.
De maître du monde de la critique.
Ce dévouement, quoi.
Super.
Je suis à deux doigts de
les amis, merci Romain pour ce petit jeu de la critique. Bientôt disponible chez Hasbro. Faites vos précommandes avant Noël. Est-ce que vous avez des recommandations? Benjamin fait passer des messages à la caméra. Heureusement que nous ne sommes pas filmés.
C'est diffamatoire, en fait.
C'est très désobligeant. Est-ce que vous avez des recommandations pour nos auditeurs, les amis, de cette semaine? Des choses à regarder, à voir?
Écoute, le seul truc que je me suis binge-watché cette semaine, c'est un animé qui s'appelle Konosuba.
Oh, j'ai entendu parler.
Et qui est
c'est
très
avec
drôle.
Des monstres, c'est ça aussi?
Ah ouais? C'est un mec qui va dans un pays, un sort de monde imaginaire, entre guillemets. T'as des monstres, mais c'est pas centré.
En fait, je l'ai vu, j'en ai entendu parler parce qu'en lisant des trucs sur Love and Monster, les gens disaient que c'était un peu lié. Enfin, que ça se ressemblait, en fait, dans la construction.
Je vois pas comment. Hein.
Pas du tout, du coup.
Peut-être pour le gigantisme de certains monstres. Genre,
t'as
des crapauds géants, des trucs
comme
ça.
Diversité des monstres, je crois, un truc du genre, un truc, un délire du.
Ouais, le crapaud qu'on voit au début, ça peut être un peu crapaud, quoi. Okay. Mais c'est très drôle. C'est un peu borderline, des fois, dans l'humour, mais c'est très absurde. J'ai beaucoup aimé.
Ok. D'autres recommandations, Pierre, Romain?
Pas spécialement de trucs dans le thème. Après, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais...
Non, mais ce que t'as regardé, ce que t'as envie de conseiller.
Ah bah, alors, mais moi, alors, bah, puisqu'on est là-dedans, moi, je me suis lu un bouquin cette semaine que j'ai binge-read, du coup. C'est un truc de fantasy un peu grim, ce qu'on appelle Grimdark, qui s'appelle Les Annales de la Compagnie Noire. c'est un truc fantasy qui suit une histoire d'un groupe de mercenaires et qui est souvent justement pas ancré dans les classiques de la fantasy et dans une morale qui est très très grise. Ils travaillent souvent pour des gens qui sont pas forcément sur le bon côté de la force, on dira quoi. Et c'est une approche vachement centrée sur les personnages qui te donne des points de vue sur la morale qui sont très en fonction de là où tu te situes quoi. Enfin c'est très très intéressant, c'est une bonne lecture. Enfin moi j'ai quasiment tout fini là, c'est
excellent.
Très très agréable.
Excellent. OK. Pas mal, ça donne envie. J'espère qu'il y aura une série.
Ben, c'est bien.
Peut-être un jour.
Eh ben, alors, j'avais vu une mention d'une série. C'est un livre de Glenn Cook, en fait, pour. Je crois que c'est ça. Attends. Oui, Glenn Cook. Et il y avait une promesse de série qui avait été faite à un moment. Je sais pas où ça en est, mais. Peut-être.
Bon, ça va y avoir, c'est sûr.
Mais Romain Courrier, producteur.
Mon Joker.
Sean Levy.
Si tu nous entends.
Non, mais il est fort pour improviser des noms de gens qu'il connaît pas. C'est incroyable.
Sean Levy, c'est vraiment le producteur. Je me suis renseigné. Pour le coup, c'est vrai.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est la réalité.
Mais Romain, il produit tout par contre, c'est normal.
Une,
c'est comme ça.
Une reco.
Un compte Twitter et Instagram encore. @critiquebiaisé. Toujours vraiment. C'est je les suis. Je sais pas qui est derrière ces comptes, mais c'est exceptionnel. Vraiment un contenu intéressant.
Il y a des threads maintenant. Et
des threads tous les mercredis. Wow.
Et lundi,
photos sur Insta. C'est fou. Wow. Vraiment. Je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, nous suivent, c'est sûr. Ça serait vraiment improbable de passer à côté. Je me peux qui ferait ça. donc voilà, je le dis comme ça. Mais bon, critique biaisée.
C'est noté.
Voilà, merci.
Chers auditeurs, n'hésitez pas à souscrire à ces comptes des réseaux sociaux. Pour ma part, je mentionnerai juste un petit clin d'œil à GTA RP, le serveur de Zerator. Alors c'est de la sous-culture. Enfin,
qui est la meilleure série
du moment. C'est notre environnement, le gaming. Mais du coup, si vous êtes un tant soit peu intéressé par le RP, il y a un événement en ce moment qui finira du coup au moment où cet épisode sortira. Mais il y a plein de replays où en fait il y a plein de streamers, des meilleurs streamers français qui font un peu de roleplay sur un serveur GTA. Donc ils jouent la police, les méchants, etc. Et c'est assez énorme et ça peut plaire vraiment à tout le monde parce que ma copine a adoré. Enfin, le regarde Johnny Money. Incarné par Mr. MV. Donc en fait, tu vois sous plein d'angles en fait comment ça se passe. Tu suis plein de streamers et du coup, tu vois une histoire se tisser en improvisation, en roleplay sur Twitch. Et c'est assez formidable. T'as des imbroglios, t'as des histoires, tu ressens des trucs. C'est ouf.
Et mention spéciale, grand grand bravo au streamer Alex Click qui joue le
Miguel,
rôle de Miguel.
Il est énorme.
Et qui est passé de, je crois qu'il a éclaté son nombre de joueurs, mais un truc incroyable. Tellement son roleplay est bon. Je crois qu'il est passé de quelques centaines de viewers à plus de 20 000 à un moment donné sur sa chaîne.
Non, il était déjà à plus que 100. Enfin, il avait quand même 5-6 000 viewers par jour. Non, mais ça arrive des fois quand même. Oui,
ah ouais,
il était hyper connu quand même.
Ah ouais? Je pensais réellement qu'il était entre 900 et
1 000.
Ouais,
1000, enfin, voilà, c'est pas 100.
Oh non, mais quand je disais quelques centaines, je pensais à la fin des centaines de
vues. Oui, non, mais
centaines de fois.
En tout cas, il a éclaté de ouf en termes de vues. Même lui, il en voit, alors,
mais
pas, mais c'était incroyable.
Il se donne à fond.
De son point de vue.
Par contre, Thomas,
ça a crevé de rire.
T'as dit que c'était de la sous-culture. Alors, t'as dû tromper.
Non, une subculture. C'est une subculture.
Ah, sub
gaming.
La surculture.
Pardon, c'est le terme anglais, c'est de la subculture. Le RP sur GTA.
La subculture en français, c'est plutôt un truc marginal, tu vois.
Non, pas du tout. La subculture au sens Twitch GTA RP, quoi. Du coup, c'est un truc qui existait avant, et notamment, du coup, c'est Kamak qu'on regardait sur Faily et tout à l'époque. Et là, du coup, c'est vraiment un truc avec un temps limité sur 2 semaines. Et du coup, ça termine mercredi. C'est vraiment, vraiment très prenant. Mardi, oui, tout à fait, mardi nuit, ouais. Exact. Donc, n'hésitez pas, les curieux, il y a des replays qui existent, des choses, mais c'est ultra abordable et c'est assez ouf, tu vois, que, ouais, quand j'ai vu Marion kiffer ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est ouf, quoi, ça peut toucher tout le monde. Voilà, pour ma petite.
Alors, Altea, du coup, a pas eu le même retour, hein. Franchement, là,
elle
m'a dit, c'est quoi,
Johnny
c'est débile.
Money, elle était dégénérée.
Elle m'a dit, c'est quoi, c'est débile, je comprends pas, depuis, elle est disparue.
Ah d'accord, elle a disparu. Oui, ça, c'est... Okay, très
elle a disparu.
Ça fait ce phénomène. Quitte d'où là.
Elle t'a quitté, elle
je
est partie.
Je ne sais plus où
elle
est.
Ok. Bon les gars, merci beaucoup. Pour la semaine prochaine, l'apéroco, le classique avec 3 films, séries, n'importe quoi qu'on va vous conseiller. Et dans 15 jours, peut-être, alors du coup, certitude à environ 70%, 50%, peut-être Nomadland, voilà, faut qu'on en discute. L'équipe Critique Biaisée reviendra vers vous sur les réseaux. Suivez-nous et nous en parlerons à l'apéroco. De toute façon, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très vite. Des bisous.
Et bonne semaine à tous. Bisous tout le monde.
Bisous.
Allez, salut.